Bonjour à tous, nous sommes déjà ensemble. Une semaine est passée depuis la dernière émission et on se retrouve pour parler pendant une heure de sport avec une belle équipe, comme disait l'autre. Anne-Françoise est avec nous aujourd'hui, deuxième bonsoir, titularisation de suite.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, et oui, que le temps passe vite. Et mon petit doigt me dit qu'il y en aura même une troisième.
C'est possible.
Oh, mais j'en suis même persuadé.
Vraiment, quel honneur.
Oh là là. Fidèle au rendez-vous, lui aussi, Julien est là. Bonjour Julien.
Ben bonjour Jonathan, bonjour à tous. Toujours un plaisir immense d'être ici.
Comment ça va? Est-ce qu'on a passé un bon week-end?
Un très très bon week-end.
Ensoleillé en plus.
Oui, c'est vrai.
Mais
c'est
vous êtes
vrai.
Un des seuls autour de la table à pas avoir pris un beau coup de lune, comme on dit.
Non, pas du tout. Non. Je n'ai pas trop sorti ce week-end.
Ah, ben c'est bien, il faut être raisonnable des fois. Et puis il est là, lui aussi. Le fidèle, le destrier, la quatrième roue du carrosse. Erwan.
Le pilier.
Bon, heureusement que c'est pas filmé. C'est pour ça, Erwan, vous avez vu, j'ai pas dit pilier. C'est Anne-Françoise qui vous cherche.
Ah, mais je note.
Ah, mais tout n'est pas une question de physique, hein, c'est bon.
Oui, bah, comparé à Erwan à un pilier, vous pouvez aller voir sur. C'est...
Bof, quoi. Un petit pilier, quoi. Voilà.
Oui, c'est un petit pilier, quoi.
Un pilier en poussin, à la limite.
Ouais, un crabos. Comment ça va, Erwan?
Bah, ça va très bien. Magnifique week-end, avec un grand prix un peu décevant.
Ah oui, c'est vrai que pour ceux qui ont regardé la F1, c'était un peu gros dodo devant la télé dimanche matin.
Hein oui, là, ça
a on a fait une sieste après le réveil.
Voilà.
Erwan, d'ailleurs, vous êtes là la semaine prochaine et vous partez après.
Oui.
Après l'émission, vous partez.
Effectivement. Après voilà. L'émission, je m'envole direction Munich
pour
la demi-finale de Ligue des Champions.
Voilà.
Voilà, entre le Munich et le Real Madrid, pour ceux qui ne sont pas au courant, au fait du bas. Des actualités du ballon rond.
Voilà, et puis nous on le regardera à la télé, hein. C'est quand même vachement... C'est là quoi. Merci d'être là en tout cas. On va passer donc une nouvelle heure ensemble. Au programme, on va évidemment retrouver les tops et les flops de l'équipe. On parlera aussi tennis de table dans l'entretien de cette semaine. Et on répondra à la question qui nous est venue directement en tête. Tennis de table ou ping-pong? Ça, c'est la question qu'on... se posera après. La saison du TFC est-elle le maximum que l'on peut espérer? Est-ce qu'ils feront mieux l'année prochaine? Ça, on apportera des éléments de réponse et on terminera avec l'analyse du match du week-end. Mais tout de suite, on commence par l'actualité sportive en région. C'est tout de suite dans Esprit Sport et c'est avec Corinne Saint-Félix.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Et en top 14, le Stade Toulousain s'incline de peu face au RC Toulon.
Toulon a reçu Toulouse au Stade Vélodrome de Marseille samedi pour la 21e journée de top 14. Un affrontement entre deux clubs, tous deux en course pour la qualification en phase finale. Un duel qui s'est terminé par un échec pour le Stade Toulousain. Les stadistes n'ont pas réussi à prendre l'ascendant face à Toulon 4e. Thomas Ramos a manqué à plusieurs reprises l'occasion de donner les points. Il s'en est fallu de très peu pour changer la défaite. 19 à 20 en 10 rencontres sur cette pelouse. Les Rouges et Noirs ont été défaits 9 fois.
Et match nul pour le TFC contre Marseille.
L'Olympique de Marseille a fini par remonter au score et rattraper au Stadium Toulouse sur le gong dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Score final 2 à 2. Avant le match hier, des dégradations dans un bar et une agression ont eu lieu par des supporters marseillais. Côté filles, les Violettes premières recevaient Grenoble 3e. Une équipe concurrente qui prétend également à la montée en division 2. Les Toulousaines ont marqué 2 buts à 1.
Le compte à rebours pour les JO a commencé mardi 16 avril avec l'allumage en Grèce de la flamme olympique, Corinne.
Le symbole des JO est désormais en route. La flamme va être portée jusqu'à Paris par des grands noms et des amateurs de sport. Parmi eux, Danae, atteinte d'une maladie génétique, qui assurera un relais à Millau dans l'Aveyron. La jeune fille pratique la danse, le taekwondo, la natation, le football. Porteuse de trisomie 21, elle pratique le sport adapté. Danae portera le symbole des JO le 13 mai lors de son passage à Millau sur une distance de 200 mètres aux côtés de sportifs locaux comme Natacha Berg et Thomas Richard.
Côté basket, match gagné pour les filles de Toulouse.
En Ligue 2, le Toulouse Métrole Basket a joué sa première demi-finale des playoffs et remporte sa première victoire 67-74 contre Olonnois. Les pionnières devront être à la hauteur mercredi 24 avril pour le match retour devant leurs supporters. Les Tarbaises s'offrent, elles, enfin Bourges pour ce premier match des playoffs, porté par la performance de Dominique Malonga, 20 points, 18 rebonds et 25 d'évaluation. Le TGB domine 87 à 69 les Dauphines de la saison régulière pour prendre l'avantage de plus de 18 points avant le quart de finale retour au Prado.
En Star League, le Phoenix Toulouse se complique la tâche.
Devant de 6 points à la 40e minute, le Phoenix 4e pensait avoir fait le plus dur face à la formation de Saint-Raphaël 9e, mais au final Toulouse partage les points sur un score nul 30 à 30. Derrière, Limoges qui est 5e et vainqueur 27 à 28 d'Ivry talonne de plus en plus près.
Et le trail des Gigapets s'est déroulé hier du côté de Lourdes.
Le trail des Gigapets, c'est un parcours entre Lourdes et Argelès-Gazost aux portes de la vallée des Gaves sur une distance de 31 km, l'itinéraire mène du pic du Gers au sommet du Pibest en passant par le Béout avec un dénivelé positif de 2100 mètres et négatif de 2078 mètres. Une équipe de bénévoles était présente toute la durée de l'épreuve.
Anne-Françoise ?
Oui. Désolé, vous m'avez fait rire.
Les Gigapets, oui.
Mais oui, les Gigapets. Des jipettes.
Des jipettes, eh ben
oui.
Oui,
c'est des
mais c'est quand on fait des roulades, on fait des jipettes. Non, c'est des galipettes. Pas du tout des jipettes.
Ça n'a rien à voir.
Voilà. Bon, merci Anne-Françoise de vous être moquée de moi pendant tout le flash.
Mais je vous en prie.
Du coup, ah ben.
À votre service.
Mais mon petit doigt me dit, il me dit beaucoup de choses ce soir, que vous allez pas faire comme tout le monde dans les tops et les flops.
Bah ouais, parce que voilà, moi, vous savez, c'est le monde des bisounours toujours.
Bah oui, bon, on va en parler tout de suite des bisounours.
Les tops et les flops.
Et puisque Anne-Françoise, vous avez décidé de pas faire comme tout le monde, vous avez décidé, parce que tout le monde il est beau, de mettre deux tops.
Ça, c'est parce que j'ai trouvé deux infos sympas en fait.
Ben, ça fait voilà. Du bien, parce qu'Erwan voilà. Va passer trois quarts d'heure à nous dire que non, c'est pas bien.
Bon, alors moi je vous dis, du coup, je commence, j'imagine.
Oui.
Allez, go. Du coup, je vais vous parler d'abord de hand. Alors, ça c'est pas très local, mais comme vous avez peut-être deviné à force d'écouter cette excellente émission d'Esprit Sport, je suis originaire de la région nantaise et Nantes a...
On a tous des défauts, Anne-Françoise, oui, c'est pas grave.
Chacun son problème. Et en fait, le HBC, le club nantais de hand, a mis une... Bonne dérouillée au PSG en hand et en gagnant la Coupe de France 31 à 23.
C'est vrai que pour le local.
on n'est pas très en local.
C'est un petit cocorico pour vous, quoi.
Oui, voilà. Bon,
c'est
ça,
un canari,
moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que Nantes gagne, que le PSG perde aussi, d'ailleurs. C'est toujours intéressant. Voilà. Et on peut noter la performance du gardien nantais qui a fait 16 arrêts. Pendant le match, ce qui est assez énorme pour un gardien de hand.
C'est vrai que c'est pas facile, un gardien.
Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'était la première info. Et la deuxième info, attention, info breaking news. Vous savez que le Stade Toulousain est déjà champion de France ?
Ben oui, le Stade Toulousain, mais de notre sport, pas de rugby.
Ah si, le Stade Toulousain de rugby est déjà champion de France.
Regardez le regard d'Erwan qui est en face de vous. C'est pas très radiophonique,
Dieu,
mais regardez le regard d'Erwan.
Parce qu'en
qui
fait,
dit...
le Stade Toulousain a gagné le championnat de France de l'écologie parce qu'en fait il y a un championnat de France qui a été lancé, il faudrait que je vous retrouve les sources parce que j'ai plus l'article sous la main, mais en fait c'est sur les économies d'énergie liées aux équipes, et donc le Stade Toulousain fait des économies d'énergie cette année qui équivalent à sa dépense annuelle en électricité pour la partie Ernest Vallon, donc par la partie entraînement.
Ça englobe mais... aussi la période où ils consomment de l'électricité pour mettre des musiques pendant les touches, pendant tout ça, ça englobe ça aussi.
Peut-être.
Parce que il faut dire qu'ils ont considérablement augmenté leur consommation d'électricité en prenant ce genre d'initiative.
Oui,
qui
mais
n'est
du
pas
coup
très...
ils ont pris d'autres actions pour améliorer en termes du coup de transport, en termes de
sur place,
en termes de
recyclage,
d'isolation,
des
alors de recyclage, d'isolation des bâtiments, etc. Et donc il y a une espèce de championnat de France et c'est le Stade Toulousain cette année qui a remporté cette compète de l'économie d'énergie et de l'écologie.
Ben voilà, déjà un trophée pour le Stade Toulousain.
On va
Toulousain.
Voir si on arrive à transformer en top 14. Quoi.
Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a un déplacement au Stade de France, du coup, on l'espère.
On espère.
Pour la finale.
C'est exactement.
Très
ce sera
avion.
Peut-être en train. Hein.
Ah. Eh.
Mais, au vélodrome, vous voulez dire
la finale
bah, du coup, pour le coup,
oui.
Elle est au vélodrome, ça
bah,
il y a les JO. Mais oui, c'est vrai.
Ah, mais oui.
Ah, Julien qui lève les yeux au ciel. Ben, tenez, Julien, est-ce que vous voulez vous moquer, vous aussi on vous écoute pour vos top et votre flop, ou je sais pas, comme vous voulez.
Non, top et flop. Mais alors, du coup, comme on est plutôt axé sur le foot avec le débat, j'ai décidé de prendre top et flop 100% foot. Alors, déjà, en top, je voulais revenir sur la semaine et sur les clubs français en Coupe d'Europe. Alors, bon, certes, il y en a qui ont eu plus de gloire que d'autres, donc comme le PSG qui a fait quand même une très très bonne remontée. Bon, une remontée d'un but, mais quand même une sacrée performance face au FC Barcelone. Et également pour l'Olympique de Marseille aussi, quand même, contre Benfica.
Sachant qu'ils avaient perdu. Le TFC.
Qui avait éliminé le TFC, voilà. Donc, une petite raccroche locale, on va dire.
C'est ça.
Et du coup, voilà, donc victoire au Vélodrome au tir au but, donc contre Benfica. Donc, certes, cette équipe n'était pas non plus. C'était pas le Benfica comme l'an dernier, par exemple, qui avait affronté le PSG. Mais quand même, ça reste quand même une sacrée belle performance pour ces deux équipes qui vont en demi. Mais donc, voilà, le triste sort, c'est plutôt pour Lille, qui, malgré sa victoire contre Aston Villa, a été éliminé au tir au but. Et voilà, comme le malheur frappe plusieurs fois, c'est donc le gardien d'Aston Villa, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc Emiliano Dibu Martinez qui, ouais. Voilà, celui qui, voilà, qui nous
le
a éliminé, qui nous a battu en finale de la Coupe du Monde, ouais. Donc qui a pu effectuer deux arrêts, donc salvateur pour son équipe. Donc sinon, voilà, donc 2-3 matchs, 3 victoires, donc voilà, c'était quand même un bilan assez positif pour les clubs français. Et ensuite, en flop. Excusez-moi, ça va être un peu de l'extra sportif. Et donc, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire Emiliano Sala. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu, donc il y a 5 ans, malheureusement, l'attaquant argentin de Nantes est décédé dans la Manche. Un crash d'avion, voilà. Et il devait rejoindre justement l'équipe de Cardiff pour lors du mercato hivernal, justement, pour finir la saison 2018-2019. Donc bon, du coup, depuis ces 5 ans, il y a eu pas mal de petites guéguerres, notamment Cardiff qui a souvent voulu avoir quelques compensations financières, évidemment.
Globalement, c'est que pour l'argent. D'un côté et de l'autre, bon.
Et voilà. Là, justement, donc, comme l'équipe l'a sorti, le club gallois demande 120,2 millions d'euros de préjudice à Nantes. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, c'est surtout donc, comment ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se sont pas embêtés, ils ont pris, ils sont appuyés sur des statistiques virtuelles. Donc en fait, ils ont engagé une société qui s'est dit, donc s'il y avait Emiliano Sala, si le transfert s'était bien passé, l'équipe aurait eu 54% de chances de se maintenir. Petit spoiler, mais qui n'en est pas un, mais ils se sont pas maintenus. Et donc, du coup, ils se sont dit, écoutez, ça va valoir environ 52,9 millions d'euros. Donc, voilà. Mais c'est ça qui est quand même assez bizarre, c'est que ce sont quand même des sommes hypothétiques. C'est-à-dire que, c'est faire confiance, du coup, à des données. Ensuite, comme ils sont restés en deuxième division pendant 4 ans, donc de 2018 à 2023, ça fait perdre, justement, la valeur du club. Et du coup, ils se sont dit, on va l'estimer à 67 millions d'euros.
Ouais, plus ou moins, quoi. Ouais.
Voilà. Et ensuite, là où vraiment le club gallois est quand même assez impitoyable, c'est qu'il demande en plus 2 millions. Bon, ça paraît dérisoire par rapport aux autres, mais pour préjudice réputationnel. Donc voilà. S'ils étaient seuls à avoir eu. Voilà, oui.
C'est dans ces moments-là où on peut voir que l'homme est profondément bon, mais peut être aussi profondément mauvais.
C'est ça.
Ce qui est terrifiant, quoi.
D'où c'est la faute du club de Nantes.
C'est ça. C'est surtout que après les deux clubs voulaient quand même boucler le transfert assez rapidement. Et le transfert il restait encore 5 jours, je pense. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas à l'heure près.
C'est vraiment se faire de l'argent sur une personne décédée, quoi. Donc, c'est quand même
autant dire que
Il remettrait la moitié à la famille, d'accord, je veux bien croire. Mais là, à mon avis, il y a très peu de moyens que l'argent aille à la famille.
C'est surtout que de ces dernières années, du coup, la FIFA a souvent tapé sur les doigts à Cardiff qui ne voulait pas, du coup, régler les résultats. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent, mais c'est assez dommage, quoi.
Yes, merci Julien.
Avec plaisir.
C'est bien. Erwan, maintenant vous avez la solide tâche d'essayer de remonter un petit peu tout ça, hein.
C'est à moi, et du coup je vais commencer par mon top, histoire de regonfler un peu les...
Est-ce que vous pouvez remonter un peu votre micro, Erwan? Ça reste de la radio, on n'est pas encore filmé, ça va pas tarder.
Mon micro ne tient plus, comme vous savez sûrement, il faut le pied pour qu'il tienne. Je suis mauvaise langue, fait des mois qu'il tient plus, mais là maintenant il tient. Voilà, comme quoi il suffisait de le dire pour que ça marche.
Effectivement.
Donc pour mon top, je voulais prendre le grand Armand Duplantis, le Suédois qui a supplanté le monde de la perche. C'est facile à dire, mais faut quand même se rendre compte que c'est la 8e fois qu'il bat le record du monde. C'est quand même hallucinant. Déjà, battre une fois le record du monde, c'est absolument sensationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a volé le record du monde à notre cher français Renaud Lavillenie, il a battu 7 fois son propre record. Donc, Il a eu
cette
le
fois
record.
Son propre record.
Cette fois, son propre
c'est
record
bien,
du monde.
C'est pas mal. C'est...
Voilà. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand il a pris le record du monde de saut à la perche, il était à 6m17. Donc, comme vous le savez sûrement, si vous suivez un peu lors des championnats du monde d'athlétisme ou lors des Jeux Olympiques, à chaque fois qu'on veut battre le record du monde, on n'est pas prétentieux, on l'augmente que d'un centimètre à chaque fois. Donc voilà, donc il est passé de 6m17 à 6m23. Et en fait, quasiment à chaque fois qu'il veut battre son propre record du monde, bah vous savez quoi ? Il réussit du premier essai. Parce que voilà, ils ont 3 essais pour le faire. Lui se dit, 3 essais, c'est long, j'ai envie d'aller dormir. Voilà, donc je vais
il
le faire du premier essai.
Il boucle l'histoire et puis à la
c'est
case
très
là,
rapide. Et puis de suite, bon, le DJ est un peu pris de court. Il ne sait pas comment mettre les lumières et comment mettre le son. Parce que c'est un phénomène incroyable. Et au JO, ça va être sûrement,
un peu
je
le...
pense, la tendance de savoir est-ce qu'il va pouvoir rebattre encore son record du monde. Est-ce qu'il va essayer de le porter encore plus haut?
Oui, s'il le bat, si oui, comment? Oui. Est-ce que c'est plus de 2 cm, plus d'un centimètre? Est-ce qu'il va rester à 1 cm? Est-ce que c'est un peu le Mbappé du saut à la perche?
Ah ben là, on n'est même pas sur un Mbappé. C'est même que Boubka, le record de Boubka, a mis plus de 20 ans à être battu. Mmh. Et oui. Là, en seulement, en seulement 4-5 ans,
il a
Armand
battu
Duplantis a battu 8 fois le record du monde.
Armand Duplantis, qui, si je dis pas de bêtises, Erwan, je parle sous votre contrôle. Allez, on va faire un lien un petit peu tiré par les cheveux et un petit peu français.
Alors ça, vous me le prenez.
Sa mère,
oui,
je crois, sa mère est française.
Avec un prénom comme ça,
mais
moi je pensais...
Mais il a choisi la nationalité suédoise.
Oh. Mais il
me
a
semble,
la double nationalité suédoise et américaine.
Il me semble que il aurait pu être français. Voilà. Et le mentor de Armand Mondo Duplantis n'est autre que... Un supporter de Clermont.
Renaud Lavigny,
exactement.
Enfin, qui est heureux, bon. Qui est
l'ancien
recordman du monde, qui a
oui.
volé le record à Boubka.
Mais il a dit que c'était le mentor de... Il a dit que son mentor, c'était Renaud Lavillenie.
Oui, voilà. Et notamment Renaud Lavillenie, qui a organisé à plusieurs reprises des meetings qui ont permis à Armand Duplantis de battre son propre record. Voilà. Comme quoi, au final l'un se porte avec l'autre.
Julien, je pense qu'il a trouvé l'info.
Non, oui, non. Ou non, du coup, il a bien des origines françaises de voilà. par sa mère. Mais non, c'est ce que... Donc, autant dire que bon, la Suède part déjà avec une médaille d'or.
Oui.
C'est visible, ouais. Et autant dire.
C'est bien, ils sont pas fanny, comme on dit. Et votre flop, Erwan, qu'est-ce que vous a marqué?
Pour le flop, j'ai décidé de partir sur quelque chose de local, mais pas trop quand même, parce qu'on part du côté de l'océan et du Pays Basque.
Aïe.
En parlant, je sais que ça vous fait mal, Jonathan.
Quel
on va
match
parler de l'Aviron Bayonnais, qui a donc perdu au Stade Français. Alors, si jamais vous avez arrêté le match à la mi-temps, vous êtes sûrement très surpris d'entendre cette phrase.
Vous avez raison d'arrêter le match à la mi-temps.
Parce que, effectivement, l'Aviron Bayonnais dominait 24-7 les Parisiens à la mi-temps. Au final, ils ont perdu 28-24, il me semble. Et du coup, c'est une très mauvaise opération pour l'Aviron Bayonnais, qui pouvait encore croire à une qualification au top 6, même s'ils essayent, comme beaucoup d'équipes avec humilité, de faire croire qu'ils se battent pour le maintien. Mais la réalité, c'est que Bayonne pouvait toujours être dans la course, donc aux phases finales. S'ils gagnaient ce match, ils ne l'ont pas gagné. Grâce à un ulti, enfin grâce ou à cause, c'est
à cause,
camp,
c'est aussi bien
voilà.
À cause.
À cause, je vais le prendre, je vous écoute, Jonathan. à cause d'un essai de Abel Köffner, donc du numéro 8 parisien qui était remplaçant et qui est rentré en cours de match à la 81e minute, grâce notamment à une récupération de balle au niveau des 50 mètres, puis à une percée de Léo Barré qui a permis de gagner au moins 40 mètres. Plusieurs Bayonnais, plutôt je vais dire, se sont plaints en disant que notamment la récupération de balles était litigieuse et qu'il y avait faute à ce moment-là. L'arbitre n'a pas voulu regarder la faute à la vidéo, car il s'est dit que s'il acceptait de regarder la faute à la vidéo, c'était qu'il succombait aux plaintes bayonnaises, qui est une rhétorique que je ne comprends pas forcément. Mais bon, on se contentera en disant que, de toute manière, Grégory Pata, le manager bayonnais, a dit que quoi qu'il arrive, pour lui il n'y avait pas faute car l'entrée illicite dans le ROC avait lieu après la sortie du ballon de ce dernier et avait lieu en plus assez loin de l'action. Donc voilà, quoi qu'il arrive, en tout cas c'est une très mauvaise opération pour Bayonne qui va avoir un début de saison un peu morose parce qu'en réalité avec
fin
de saison points,
un peu morose.
Excuse-moi, oui.
Morose saison, sachant que le Stade Français joue en rose. Bien aussi.
Voilà.
Joli clin d'œil.
Donc voilà, avec 6 points d'avance sur Montpellier, donc qui est 13e, et avec, même plus besoin de le dire, mais un nombre conséquent de points d'avance sur Oyonnax qui est dernier, Bayonne voilà, va essayer de faire vibrer un peu ses supporters d'ici la fin de saison.
À condition qu'ils ne jouent pas à Noueta, évidemment.
Oui, mais oui, voilà. Mais il y a clairement peu de chances qu'ils puissent se qualifier pour les phases finales, contrairement à Pau. et à l'USAP qui, eux, ont encore fait une bonne opération ce week-end.
Une défaite qui fait plaisir à Coraline. Je sais que, voilà, elle n'est pas là ce soir, mais...
Victoire,
voilà,
peut-être, plutôt.
Non, une défaite de Bayonne qui fait plaisir à Coraline, voilà. Sachant que quand Bayonne a pris NEC, ils étaient à 10. Ah, 10, ah, 14, pardon. Oui. À 10.
Oui. Ça aurait fait beaucoup, quand même.
Ça fait beaucoup de cartons.
Ça aurait fait beaucoup de cartons, c'est vrai. Étonnant, oui, alors un petit plus, mention honorable pour la première fois de son histoire. L'équipe de France de futsal a battu le Brésil. Un nation mondiale évidemment, médaille d'or, c'était il y a une semaine, ils l'ont battu 3-2, voilà, c'était le premier match du Global Futsal Cup, alors je savais pas que ça existait, mais la France a battu le Brésil et est devenue, voilà, est devenue une grande équipe maintenant, avec un très beau maillot bleu, comme on a vu lors de France-Allemagne, avec le gros coq doré qui fait débat. Voilà, Cocorico, on espère que ça va se reproduire encore et encore. Merci pour tous ces tops et ces flops. Et tout de suite, on passe au face-à-face de cette semaine.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nouveau sport olympique, puisque nous allons parler de tennis de table avec le manager sportif de l'US Montauban Tennis de Table. Bonjour, Alboran Molinar.
Bonjour.
Alors, première chose, tennis de table, c'est quand on est en club et quand c'est sérieux, le ping-pong, c'est au camping l'été.
Alors ça, c'est ce qui se dit, hein, mais ça se démocratise de plus en plus. Les trois quarts des joueurs, voire 90% des joueurs que vous allez rencontrer, ils vont vous dire qu'ils vont à l'entraînement de ping, qu'ils vont jouer au ping-pong, qu'ils vont à leur compète de ping. Voilà, alors le tennis de table, on va appeler ça le tennis de table parce qu'on est en fait affilié à la Fédération Française de Tennis de Table. La Fédération Française ne s'appelle pas la Fédération Française de Ping-Pong. Donc évidemment, on a tendance à dire souvent que le ping-pong, c'est l'aspect loisir, ludique, et que le tennis de table, c'est l'aspect compétition plutôt.
Voilà, comme ça au moins, on a mis les bases pour ce sport qu'on va retrouver au JO. Avant de partir direction Paris 2024, on va revenir à Montauban. Le club de l'US Montauban, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous, en plus, vous êtes au cœur de ce club, vous êtes manager sportif. Il y a 15 jours, il y a eu de bons résultats et on espère que ça va continuer. Depuis quand on retrouve ce club? Où est-ce qu'on le retrouve? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, l'US Montauban en tennis de table, donc c'est le club de Montauban, hein, le seul club de tennis de table de Montauban, et puis le gros club du département. Alors, moi, je suis salarié au club en CDI depuis 2006, donc ça fait maintenant 17 ans que je suis au club en tant que manager sportif. Le club a été créé donc en 73, donc on a fêté les 50 ans l'an dernier. Du club. Alors, il a changé de nom, hein, entre 73 et aujourd'hui, puisqu'on a rejoint donc l'Union sportive montalbanaise, qui regroupe une quinzaine d'activités sportives, notamment le rugby, le golf, le volley, etc., l'escrime. Le club est situé donc au cœur de la ville de Montauban, quartier Ville-Bourbon, depuis 73, au gymnase Louis Sabatier. Donc, on a un club de niveau national, hein, avec une équipe 1 en National 3. Qui se maintient. On a été également en National 2 il y a quelques années. On a des joueurs qui évoluent également au niveau national en individuel. On a un club plutôt formateur. On a quand même 70% de jeunes de moins de 18 ans dans le club sur nos 220 licenciés. Donc voilà, club plutôt formateur, qui se veut formateur, avec une école de jeunes dynamique, et puis des résultats, hein. On a eu des médailles au championnat de France il y a quelques années. On a là encore une joueuse, vous le disiez, il y a 15 jours, qui a gagné le championnat Occitanie dans la catégorie de minime fille et qui s'est qualifiée pour les championnats de France qui auront lieu à Tours. Donc voilà, on a des résultats chaque année. On a aussi une douzaine d'équipes, parce que le tennis de table, c'est un sport individuel qui se joue aussi en équipe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au niveau des Jeux Olympiques, puisqu'il y a aussi une épreuve par équipe aux Jeux Olympiques. Une épreuve qui a aussi eu lieu il y a trois semaines, un mois, en Corée avec
l'aboutissement congolais avec deux médailles de l'équipe de France, ouais.
Exactement, une médaille d'argent, donc vice-champion du monde pour l'équipe masculine, et puis une médaille de bronze pour l'équipe féminine, c'est quand même historique. Donc voilà, et on est aussi donc un sport d'équipe, puisque donc on a une douzaine d'équipes sur le club, de la nationale 3 jusqu'à la départementale 4. Donc on a quasiment, on a une équipe par division en fait, de N3 à D4.
Alors justement,
Voilà.
une équipe par division, comment ça se passe? Parce qu'on imagine que les niveaux, quand on est en élite ou en régional, il y a des déplacements à faire. Comment ça se passe? Est-ce que la Fédé ou la région prend en charge une partie du déplacement? On va prendre un exemple, hein, dans une des poules où est l'US Montauban, on retrouve Monaco, Montpellier. Besance,
Fréjus,
Fréjus, voilà. Donc
Besançon,
c'est
ouais.
pas la porte à côté comme on dit.
C'est
Comment
ça.
vous arrivez à financer ces déplacements?
Alors, bah, le financement, en fait, ça représente un gros budget, hein, une équipe en national pour un club de tennis de table. Effectivement, entre bah, le déplacement aller-retour, donc soit en avion, soit en location de véhicule, plus bah, l'essence, le péage, si on y va en voiture, évidemment, ainsi que les hébergements. Donc, il faut prévoir les hôtels, les restaurants, parce qu'il faut se restaurer aussi. Hein. Quand on part un week-end, c'est au moins 2 repas, midi et soir. Donc, ça, c'est un budget assez important qui est soit ben, pris en charge grâce à du sponsor, des sponsors, des mécènes qu'on va chercher, hein, qu'on démarche. Donc ça peut être des sociétés, des restaurants de la ville, des commerçants, des artisans, voilà. Après, évidemment, il y a aussi des demandes de subventions qui sont faites auprès du conseil départemental, du conseil régional, de la municipalité, mais qui évidemment ne permettent pas forcément de couvrir l'intégralité des dépenses dues à nos équipes, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un engagement payé. À chaque fois qu'on a une équipe qui est engagée, on paye un engagement auprès de la fédération pour les équipes de nationale, auprès de la Ligue Occitanie pour les équipes de régionale et auprès du comité départemental de Tarn-et-Garonne pour les équipes de départementale.
C'est là
Alors
où le
évidemment, c'est
terme
dégressif.
partenaire, il prend tout son sens, du coup.
Exactement, oui, c'est ça. En fait, il y a des partenaires à tout niveau, à tout échelon, qui nous aident plus ou moins, de manière plus ou moins importante en fonction des budgets, en fonction bah, justement des résultats. Ça peut être important de savoir qu'un club bah, qui a 200 licenciés, il sera plus aidé qu'un club qui en a 30. Et de la même façon, un club qui présente une équipe en nationale pourra peut-être être davantage aidé, avoir des subventions complémentaires. Qu'un club qui a qu'une équipe en départemental, par exemple.
Comment se
Voilà.
passe un tournoi dans votre club? Parce que je sais que vous en avez accueilli quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous le déroulement, parce que c'est dans des grandes salles. On sait qu'on peut faire du tennis de table à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on va se focaliser sur les salles en extérieur. Au niveau des tables, tout ça, comment vous vous organisez? C'est pas comme au
Alors,
collège où on fait des tournantes table 1,
non,
table
c'est
12.
sûr. Alors nous,
Ça, un petit peu plus
on
compliqué.
a eu la chance, c'était aussi une première, hein, je crois, cette année, on a eu la chance d'organiser, il y a ce qu'on appelle la compétition majeure du tennis de table, qui est le Critérium fédéral, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement les indives, hein, les individuels. On a eu la chance d'organiser donc un tour de national en décembre, et ce qui est très rare et qui n'arrive jamais, c'est que la Ligue nous a octroyé également un tour de pré-national en janvier, c'est-à-dire qu'en fait, on a organisé 2 grosses compétitions sur les 4 qu'il y a dans l'année. On a organisé le tour de national à Montauban. Donc là, c'est une grosse compétition avec 200 joueurs, filles et garçons, qui viennent en découdre donc de toute la zone sud-ouest. Donc ça va de Poitou-Charentes jusqu'à Occitanie, évidemment, Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc là, on a dû, pour la première fois également, demander le Palais des Sports Jacques Chirac de Montauban, qui est un superbe complexe sportif qui a ouvert il y a très récemment, qui est flambant neuf. Et du coup, bah, ça a demandé une grosse logistique aussi, avec déménagement de nos tables, puisqu'on a dû quitter notre gymnase. Donc les 24 tables ont été déplacées par déménageurs pour aller jusqu'au complexe sportif Jacques Chirac pour cette compétition donc, du mois de décembre. Et ensuite, on a en janvier organisé le tour de pré-national dans notre salle, mais aussi au gymnase, que nous, nos sous-sols. On a organisé donc le tour de pré-national au sous-sol et à l'étage du gymnase Louis Sabatier.
Ouais, donc
Donc
ça
pareil,
demande
sur 24 tables.
une vraie organisation, hein.
Ah, il y
24
a une vraie
tables,
organisation, il y
c'est...
a énormément de bénévoles, il y a les dirigeants, on est salariés, on a des salariés, on est 2 éducateurs salariés à Montauban, au club. Donc on était mobilisés évidemment tout le week-end, mais ça demande aussi une préparation en amont, hein, parce qu'il y a une buvette qui rapporte aussi des sous. Il n'y a pas que le fait d'organiser qui nous rapporte de l'argent, il y a aussi le fait de proposer l'alimentation, des boissons aux joueurs. Et puis après, bah, il y a aussi des arbitres. On avait des arbitres à fournir parce que pour la compétition nationale, c'est obligatoire, on doit fournir des arbitres.
C'est vous qui
C'est pas
fournissez
les.
les arbitres, c'est pas
Voilà, c'est
la
ça. C'est le club
Fédé ou
organisateur.
la région
Alors
qui...
là, en l'occurrence, pour un tour de National 2, Sur les 24 arbitres qu'on doit fournir chaque jour, il y en a 8 qui sont fournis par la Ligue. Donc, à nous, reste à notre charge 16 arbitres à trouver par jour, samedi et 16 dimanche. Donc, voilà, ça aussi, c'est une organisation. Ça aussi, c'est de l'investissement. C'est de la formation aussi, parce qu'il y a des arbitres qu'on a dû former spécifiquement pour l'épreuve. Donc, voilà. Et je vous dis, c'est la première année, cette saison 2023-2024, où un club d'Occitanie a obtenu l'organisation de deux tours d'un div, et en plus, d'autant plus à un mois d'intervalle, parce que le tour de National 2, le deuxième tour de National 2 qu'on a organisé, dont on a obtenu l'organisation par la Fédé, ça a été en décembre, et le troisième tour de pré-national qu'on a obtenu par la Ligue Occitanie, c'était en janvier. Donc on a enchaîné à un mois et une semaine d'intervalle, deux grosses manifestations. Voilà, qui nous ont
Avec
rapporté des
succès.
sous aussi.
Avec succès, on l'imagine.
Et ça s'est très bien passé. Il y a eu on a eu des très bons échos, des très bons retours, notamment au niveau du matériel et puis je vous dis de l'infrastructure qu'on a proposée au complexe sportif Jacques Chirac, qui est vraiment un superbe complexe.
Pour tous ceux qui ont envie de franchir le pas, de passer du loisir au club un petit peu plus où il y a un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus de compétition, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Pour
Eh ben alors
s'essayer.
nous, alors on est au gymnase Louis Sabatier, au 22 avenue Chamier à Montauban, c'est le quartier Villebourbon. On est vraiment à 200 mètres de la gare de Montauban. Voilà, après, bon, au début de chaque saison, on a également la fête des sports qui est organisée au cours Foucault à Montauban, où on propose bah, justement des flyers, des informations, les plannings. Mais globalement, on a la chance d'avoir une salle spécifique, c'est-à-dire qu'on y est toute la semaine. On propose des entraînements du lundi au vendredi, tous les jours, et le mercredi après-midi, évidemment, de 14h à 22h, on est full. Donc voilà, on a la chance d'avoir cette salle spécifique, donc qui nous permet d'avoir des entraînements toute la semaine. Et alors les loisirs peuvent venir s'entraîner, parce que vous me disiez de passer du loisir à la compétition, mais on peut également être inscrit en club et continuer à ne pas vouloir faire compétition, mais à progresser quand même, et donc à vouloir pratiquer régulièrement. On a une grosse grosse un gros groupe de loisirs à l'USM Tennis de Table, donc ils viennent s'entraîner les lundis et jeudis soirs notamment, en pratique libre. Donc là, la différence ce qui différencie les compétiteurs des loisirs, c'est que les loisirs n'ont pas forcément d'entraîneur. Ils viennent en pratique libre pour s'amuser, pour se former eux-mêmes ou apprendre avec des joueurs de leur niveau. Voilà, et il y a quand même un créneau dirigé par semaine, le mercredi soir, de 20h à 22h, où j'ai un collègue qui encadre, qui propose une animation au loisir. Voilà.
Et mon petit doigt
Donc.
me dit que si on vient vous voir dans vos locaux, il y a un maillot de Félix et Alexis Lebrun. Donc voilà, ce sera.
Tout à fait, vous avez bien raison, et d'autant plus que j'ai eu la chance récemment d'avoir eu des maillots dédicacés et des posters dédicacés, parce qu'on a une tombola au club et on va mettre en jeu pour le meilleur vendeur parmi nos jeunes qui vont vendre les carnets de tombola, un des maillots de Félix ou Alexis au choix, dédicacés, puisque c'est leur père Stéphane Lebrun qui me les a remis lors du tour de Critérium fédéral, du premier tour d'Indy, justement, où on s'était vu à Angoulême. Et il m'avait remis les deux maillots et les posters, parce que j'avais fait la demande d'avoir une animation avec eux. Et évidemment, en année de préparation olympique,
De
c'était
passer à côté de
impossible
cette
de...
occasion.
Alors, c'était surtout impossible de
Ah
les avoir
oui. On imagine bien, parce qu'ils
avec
étaient, il y a un mois, ils étaient en compétition en
en
Corée.
Corée.
Et là où
Oui, tout
ça
à
s'est
fait.
très bien passé, ils ont fait finale la première fois depuis 97, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement. Oui, c'est la première fois que l'équipe de France
Voilà.
masculine
Il
fait
n'y a que
finale
trois
depuis
médailles
2007.
en masculin, il n'y a que trois médailles qui ont été ramenées depuis l'histoire de l'équipe de France de tennis de table. Et là, c'était la quatrième.
Exactement.
Donc
C'est ça.
voilà, c'est justement, on va la faire cette transition. Félix et Alexis Lebrun, c'est un petit peu les Kylian Mbappé du tennis de table en France. Est-ce qu'on peut les comparer
C'est
comme
ça.
ça?
Bah oui,
Il y a
enfin,
Simon Gauzy aussi.
je vous le disais, on a vraiment deux pépites qui sont dans le tennis de table, de baigner dans le tennis de table depuis tout petit. C'est une histoire de famille. Leur tonton, c'est quand même Christophe Legout, qui a été à l'époque des Mousquetaires en équipe de France également, qui a été jusqu'à numéro 14 mondial, qui est un pongiste connu et reconnu en France. Leur papa, Stéphane Lebrun également, qui est à Montpellier, voilà, c'est aussi une pointure du tennis de table. Je veux dire, ils ont tout pour réussir. Et en plus, ils sont hyper humbles, ils sont hyper accessibles. C'est deux gamins qui font beaucoup de bien à notre discipline. Et je pense qu'ils vont en faire encore beaucoup, et notamment à l'approche des Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques, puisqu'on a, avec Simon Gauzy, comme vous le disiez, qui a porté l'équipe de France pendant plusieurs années, parce qu'il était en attente justement d'avoir la relève. Et la relève, là, aujourd'hui, elle est là, elle l'a même dépassée. Hein, il l'a dit lui-même dans une interview. Je me souviens, il a dit il y a 1 an et demi, ces garçons, là, les Lebrun, ils étaient 1000e mondiaux. Maintenant, ils sont dans le top 20 tous les deux, voire même numéro 6 pour Félix. Donc il a dit, voilà, je ne les ai pas vus venir, mais finalement, moi je me voyais tout beau et je me voyais aller au JO, avoir ma place au JO en simple. Mais en fait, il a compris que bah, ça
Ça
y
va
est,
être un
cette fois
petit
c'est
peu plus
fini, quoi. Il
compliqué.
irait pas, il pourrait pas jouer en tout cas ensemble, parce qu'il n'y a que deux joueurs par nation, et que bah, ça serait Alexis et Félix certainement qui seraient positionnés en simple pour les Jeux Olympiques de Paris, quoi.
Justement,
Voilà.
ces JO, on entend beaucoup parler des Coréens, des Chinois. Est-ce qu'on a une réelle chance pour ces Jeux Olympiques qui seront à la maison, hein, à Paris, d'avoir
Oui.
une chance de médaille? On l'a vu, hein, ils sont capables de rivaliser. Donc, est-ce qu'on peut croiser les doigts pour avoir une médaille?
Bah, Alexis, donc très récemment, il y a 15 jours, comme vous le disiez, même 3 semaines, au championnat du monde, il a eu une balle de match sur Fanzhendong, numéro 1 mondial, qu'il avait déjà gagné en avril. Oui, sur un match, tout est possible. Après, on a aussi la chance, il faut le dire, hein, les Chinois, ils sont, comme vous avez pu l'entendre, les 5 premiers mondiaux sont chinois. Donc, sauf que les 5 ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques. C'est 2 sélections par pays. Donc, déjà, ça ouvre un peu
Ce qui
plus les portes.
facilite, oui.
Ça facilite, bah, évidemment, ça veut dire que un Félix Lebrun potentiellement peut être tête de série numéro 3 de cette compétition, donc de pas rencontrer un Chinois avant les demi-finales. Et on sait tous qu'en demi-finale, on est médaillé au tennis de table. Donc, je veux dire, il y a des chances de médaille. Alors en simple, déjà. Après, ça sera dur, hein, attention. Hein, et effectivement, vous l'avez dit, il y a les Coréens, il y a des excellents joueurs aussi au Japon. Voilà, bon, en simple, ça sera compliqué, mais par contre, on est une très belle équipe. De tennis de table, je pense, équipe de France cette année, et on sera aussi tête de série. Et donc, on a des chances aussi, selon, toujours pareil, à quel moment du tableau on va avoir la Chine, on a des chances d'aller loin. D'ailleurs, moi, le premier, j'ai pris mes places pour
Ah, ça
les
y est.
quarts et les demi-finales des championnats par équipe, davantage en me disant, bah, j'aurais plus de chances de voir l'équipe de France en prenant quart et demi qu'en prenant quart et demi des simples, par exemple. Parce que ça, j'ai pas de garantie qu'il y aura un Félix ou un Alexis en demi-finale, par exemple. Tandis que j'ai du grand, grand espoir, comme beaucoup, comme la fédération certainement, de médailles en équipe, quoi.
Qu'est-ce que vous
Voilà.
attendez au niveau régional, même au niveau local, avec votre club, de ces JO et de cette mise en lumière et de cette comment on peut dire, de cette élévation du tennis de table récemment, à l'image de la performance des Bleus contre la Chine? Qu'est-ce que vous attendez de cette
Bah,
mise en lumière?
on observe déjà, si vous voulez, aujourd'hui, alors que les JO ne sont pas passés, on observe déjà un engouement pour le tennis de table qu'on n'observait pas il y a encore quelques années ou quelques mois. La médiatisation des frères Lebrun, les vidéos qui ont pu être diffusées de leurs plus beaux points, qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux, et effectivement, le phénomène des réseaux sociaux fait un bien fou au sport en général, mais au tennis de table encore plus, parce que le tennis de table, quand même, c'est pas un sport qui est très médiatisé initialement. Ils ont essayé de faire des efforts, hein, depuis 20 ans, hein, avec la taille de la balle qui a grossi, pour ralentir le jeu, les nouvelles règles, le fait de plus pouvoir masquer au service, etc., pour que ce soit un peu plus télévisuel. Mais là, l'effet Lebrun, il est très clair. Et on espère que nous, club, quel que soit le club, hein, quels que soient les clubs, on espère qu'effectivement, on verra une répercussion au niveau du nombre de licenciés, comme à l'époque de Jean-Philippe Gatien, quand il a eu son titre au championnat du monde, voilà, ou sa médaille aux Jeux Olympiques. Les années qui ont suivi, bah oui, il y a eu un engouement, oui, il y a eu plus de licenciations, plus de jeunes qui ont commencé le tennis de table. Enfin, voilà, on sait qu'il y aura un effet certainement comme ça, et encore plus si on fait une médaille. Une médaille, aux Jeux Olympiques, elle apporte toujours pour le sport, pour la discipline. Et d'autant plus, je vous dis, les Lebrun, pour les connaître un peu, pour les avoir vus évoluer, ils sont restés eux-mêmes, ils sont très humbles, ils
Ils
sont
ont pas
hyper
pris la grosse
accessibles.
tête.
Il n'y a aucun,
C'est des.
rien à voir, mais tout le monde vous le dira. Ils sont hyper accessibles, ils sont hyper sympas, ils sont restés eux-mêmes. Il y a d'ailleurs des vidéos très sympas qui circulent parfois sur eux-mêmes, quand ils sont suivis par leur équipe de communication et tout, qui sont, on voit qu'ils sont très drôles, qui jouent à la Switch, enfin, qui
Ça
sont
reste du
des
sport et ils
gamins.
prennent du plaisir dans ce qu'ils font
Voilà, ils
et c'est
prennent du
peut-être
plaisir,
l'essentiel,
et
ouais.
c'est ça. Et puis, il y a un truc, il y a des choses qui ne trompent pas, c'est que même les Chinois, ils commencent à s'interroger, quoi. Donc, à un moment donné, quand on arrive à même faire douter les meilleurs du monde, la nation qui écrase le tennis de table depuis 20 ans, bon, on se dit que peut-être il y a quelque chose, quoi, avec eux. Voilà, même les Chinois, ils se posent des questions sur comment ils s'entraînent, comment ils sont arrivés si vite, comment ils progressent autant, et voilà.
Peut-être que
Donc.
2024, c'est l'année, le nouvel espoir pour les chances de médaille aux JO, pour l'équipe de France de tennis de table. Merci d'avoir été avec nous, Alboran Molinar, je le
Merci à
rappelle.
vous.
Vous êtes le manager sportif de l'US Montauban Tennis de Table. Et donc, on vous retrouve principalement sur Facebook.
Facebook et Instagram, tout à fait. On a la page US Montauban Tennis de Table ou US Montauban TT. Voilà, vous avez toutes nos actualités, nos horaires, les coordonnées pour nous contacter. Si vous souhaitez commencer le tennis de table, il n'y a pas de problème. Voilà, on organise des stages pendant les vacances, puis vous avez des entraînements toute l'année.
Voilà, toutes les informations sont données et j'essaye de motiver toute l'équipe pour venir faire un entraînement avec vous. Voilà.
Ouais, très bien, ouais, vous êtes les bienvenus.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Tout de suite, on va se poser une question assez simple sur Radio Présence. Est-ce que la saison du TFC est-elle parfaite? Est-ce que c'est le maximum que l'on peut espérer? Je vois Erwan faire la moue, Julien un petit peu neutre. On va y répondre tout de suite.
Bah, pour moi, pour moi.
Là, Julien, il arrive direct.
Pour une fois. Allez,
il rentre dans le ring, là. Là.
C'est souvent Erwan qui commence, alors je me suis dit.
Oui, je parle Erwan, beaucoup, je... donc il faut arrêter.
C'est ça, c'est
voilà.
Ça.
Coupez-moi la parole, si vous voulez.
C'est ça. Mais il est à côté, allez-y. Hein. C'est... Vous pouvez le.
Donc,
le tordre.
Oui, absolument, absolument. Je n'y manquerai pas. Mais donc, voilà. Donc, est-ce que c'est le maximum qu'on peut espérer? Donc, clairement, non, je pense pas. Parce que bon, il faut quand même prendre le contexte général par rapport à cette saison. C'est qu'il faut dire que durant l'intersaison, il y a quand même pas mal de modifications, que ce soit au niveau de l'entraîneur. Donc c'est Martinez Novel qui a remplacé Montagnier, donc qui était son adjoint la saison passée. Il y a eu beaucoup de départs, surtout cet été, et dans toutes les lignes, et que des cadres. Bon, on a peut-être eu Guillaume Rest, qui a parfaitement assuré la relève de Maxime Dupé, mais on a eu quand même pas mal de pertes, surtout au milieu de terrain, avec les départs de son joueur clé, hein, Van den Bomen, et ça on l'a quand même ressenti tout au long de la saison, qu'il y avait quand même un gros manque au milieu de terrain. Alors bon, ils ont quand même eu l'opportunité de récupérer Spierings, qui était parti à Lens et qui a pu revenir, donc ça fait quand même du bien, mais pas toujours. De Jagereux aussi qui est parti. Derrière aussi, on a du Rouault qui était quand même. Voilà,
Spiering qui était parti à Lens, voilà. Et qui est revenu.
Oui, voilà, exactement. Donc Rouault qui est parti, devant aussi Illy. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses. Et surtout aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le TEF était engagé sur deux compétitions, donc la Ligue Europa. Donc bah, forcément, bah, c'est quand même.
Il faut quand même
ouais. Avoir aussi un effectif qui est en mesure de pouvoir gérer toutes ces échéances. Et le TFC est parvenu voilà, à sortir, à finir deuxième, donc à sortir des poules de Ligue Europa, qui est actuellement, si je ne me trompe pas, 11e de Ligue 1, qui est à 5 points de la 7e place, donc 7e place qui est qualificative pour l'Europe. Donc rien n'est perdu, surtout si bon, on regarde le calendrier. Donc bon, les 4 derniers matchs ne sont pas les plus faciles. Enfin, donc celui qui arrive contre Lorient, peut-être un peu plus. Après, il y en a un autre contre Montpellier, mais après les 2 derniers contre Paris et Brest.
Ouais. C'est
donc,
le premier et le troisième.
Le match contre Paris, on a envie de dire, d'ici là, ce sera l'avant-dernière journée, Paris sera sûrement champion.
Paris qui peut être champion voilà. Dès cette semaine.
Donc, on va dire que peut-être que Paris, voilà,
suffit
en plus avec les
séances
européennes, sera peut-être, voilà, on va dire, sur la réserve un peu. Brest aussi, peut-être à la dernière, qui aura peut-être assuré son top 3. Donc, on va dire que le calendrier peut être favorable. Donc, voilà, donc sinon, pour en revenir, je pense que Toulouse peut faire clairement mieux. Et l'an prochain, par exemple, il y a quand même Toulouse, ben. Bon, il y a très peu de chances quand même qu'il soit européen.
Vous avez vu, Erwan, Julien, il donne des arguments, puis il hoche la tête et après il se dit, parce que quand même, ils ont fait 8e de finale de Ligue Europa, ils étaient mal partis en début de saison.
Mais la 16e saison
finale, 16e de finale. 16e, 16e,
oui, 16e.
16e de finale, alors que franchement, on ne les attendait pas. Début de saison, il était pas terrible. On en a parlé ici. Hein. On les attendait à se sauver.
Qu'il était pas terrible.
Oui, merci Erwan. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Erwan, vous étiez un des seuls à dire oui, non, ça a bien se passé et vous avez eu raison. Mais au début, on était un peu pessimiste au vu de tous les départs. Et puis finalement, bon, c'est pas mal comme saison.
Ah non,
des
c'est
saisons comme
pas
ça
si mal,
tous les ans. Je suis sûr que les Invaders signeraient tous les ans.
Ah ben, arriver, voilà.
Européenne, petit parcours. Bah,
européenne, battre Liverpool.
Rome aussi, voilà, en match amical, en début d'année.
Oui. Oui.
C'est un match où on était tous les deux. Juste devant le Dybala quand il a mis son coup franc.
Ouais, moi aussi, j'y étais, monsieur Erwan.
Ah voilà. Ben, on a tous pris une belle après-midi d'été.
C'est vrai, effectivement.
C'est vrai. Non, mais sinon, voilà. Et l'année prochaine, en fonction de comment voilà, se passe, et surtout, ben, on va dire que maintenant, de nos jours, le mercato fait quand même beaucoup. Donc, à voir comment les. Et il y a beaucoup de départs qui sont prévus.
Une vente
sont prévus,
aussi,
des ventes.
Peut-être. Le vin du club.
Ah oui,
dans
là,
les petits papiers.
Bah, à voir où ça en est.
Bah, c'est pas encore officiel, ça va arriver.
Le club, on a quand même, apparemment, le club a quand même marre de récupérer des très bons talents et de les voir partir libres, alors que le but, c'est quand même de prendre des talents pour peu et de les revendre pour, pas façon pour beaucoup, mais pour une somme qui est plus conséquente et qui permet de inscrire le club dans une espèce de spirale vertueuse sportive qui leur permet d'année en année de gagner une ou deux places par championnat. Alors là, ça, pour l'instant, ça se profile parce que le TFC a fini 13e, il me semble, la saison dernière. Et là, s'ils finissent 11e, comme 11e. C'est prévu, voilà, donc ça marchera. Ils seront montés de deux places, comme l'a dit très justement Julien, en plus avec la Coupe d'Europe. Ça sera vraiment notable. Moi, je trouve que l'année dernière, le TFC était vraiment porté par son milieu de terrain, qui était clairement au-dessus du reste de l'effectif.
Et là, ils sont tous partis.
Mais surtout, là, c'est beaucoup plus homogène, je trouve. y a des joueurs pas forcément il y a pas forcément une colonne vertébrale hyper
la défense pour... je trouve c'est révélé. Lucas Dessler, Nicolas Hyssen qui cette année
il y a une certitude
qui fait pareil une saison ouais. mais incroyable ouais, c'est Lafont, Guillaume Rest pardon
oui
oui j'avais compris en plus je l'avais quand vous l'avez dit
et Juan qui hoche la tête et Julien qui lève les yeux
c'était Guillaume Rest le bon vieux temps
Guillaume Rest qui est dans les papiers de Marseille apparemment.
Oui, alors il me semble que les violets, qui sont souvent une des
sources confiables ouais.
sur ce dossier, ont démenti le dossier. Mais voilà, donc les violets ont aussi dit la plupart des joueurs qui pourraient partir, notamment le fait que le TFC attendait plus de 20 millions, par exemple, pour Tiff Denga.
Vous savez bien son prénom, c'est
qui, oui, je regarde les matchs, j'écoute comment Prime Vidéo dit. Après, si Prime Vidéo le dit mal, je risque de mal le dire aussi. Donc, bah, c'est, il faut se fier.
Ils disent Tige.
Tige Dalinga.
C'est Tige.
Tige Dalinga. Et il y a une vidéo où
je sais pas, je crois que c'était Thais. Enfin, je sais pas,
il me semblait. C'est Tige Dalinga.
Après, T-H-I-G-S.
I-G.
C'est ça ressemble tout sauf un nom.
Je pense que nous ne nous mettrons aucun néerlandais à dos en disant ça.
Oui, c'est vrai. Oui. Puis si nous écoutons, on s'en
excuse. Il y a aussi Costa, donc qui est, on va pas se mentir, mais sûrement le meilleur, enfin qui est même le meilleur défenseur central que possède le TFC actuellement, qui pourrait partir. Le TFC pourrait perdre ses deux latéraux. On se rend pas compte, mais actuellement dans le football moderne, c'est quand même hyper compliqué d'avoir latéraux, deux bons latéraux. Dessler va partir en MLS à Austin. C'était vraiment une sécurité Dessler à droite.
C'est vrai qu'il a été incroyable à gauche.
De partir. Ouais. Alors là, on estime aussi une très belle somme. On sait que notamment Dortmund était intéressé au dernier mercato, ce qui est quand même pas rien. Ça montre que potentiellement des gros clubs peuvent s'intéresser. On va pas se mentir, Soiseau est loin d'avoir fait une mauvaise deuxième partie de saison. Donc les intérêts peuvent être toujours présents. Voilà, il y a aussi des joueurs. Donc il y a Dalinga. Là, il y a Sperings, donc il va retourner à Lens. Et il y a très peu
de chances qu'il y reste.
Mais même qu'il reste au TFC, que le TFC le reprenne. Oui. Parce que,
Là, on va le récupérer, va le revendre derrière.
Voilà, n'a pas forcément envie de mettre quelques deniers là-dedans. Et puis surtout, on va pas se mentir, Sperings, il fait pas la même saison qu'il faisait avec
le prénom de Sperings
Stinge.
Ouais. C'est aussi un néerlandais. C'est aussi un hollandais assez compliqué.
Branko van Bommel, c'est bien plus.
Branko van den Bommel, c'est vrai, qui est parti à l'Ajax, me semble-t-il.
Et Brecht de Jagereux, qui lui est parti donc aussi en MLS. Mais qui,
Charlotte.
Voilà, Charlotte, comme va finir sa carrière, comme Tony Parker, il me semble.
Oui, c'est vrai, au Hornets, absolument.
Et, pas le même soir, bien évidemment. Mais.
Le ballon est rond.
Effectivement. Mais donc voilà, il y a eu ce problème au milieu de terrain. Là maintenant, on sent quand même que Vincent Sierro, il a pris de plus en plus de puissance au fur et à mesure de la saison. On avait beaucoup de doutes au début. Maintenant, on est une certitude.
Il assume le capitanat, ce qui avait eu un peu de mal au début de saison.
Indiscutable, je pense, pour beaucoup de personnes qui regardent fréquemment les matchs du PSG, bien évidemment, du TFC.
Du TFC
je pense que
vous comparez le TFC au PSG, c'est plutôt bien.
Mais oui, c'est tout en leur honneur. Et Vincent Sierro est le titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il donne toujours de sa personne. Il a su monter en puissance. Il a su.
Il y a des retours aussi qui vont arriver.
Oui.
Zakaria Bouklal qui va revenir. Je cherche en tête qui est-ce qui est blessé. Denis Genro aussi.
Genro a toujours eu un rôle un peu de second couteau pour faire la rotation.
Mais quand on voit le nombre de matchs en saison
sur le retour, on sait qu'il a des problèmes de dépression et de santé mentale assez important. Mais voilà, on sait que quand il est en forme et quand il est là, ça peut vraiment être un très bon joueur qui peut aider le TFC. Donc à voir en quelle mesure il sera capable d'aider le club à accéder encore plus haut. Si le TFC, qui n'est pas si loin que ça, et malheureusement le...
Il y a Skita aussi, qui est blessé.
Skita qui risque de partir aussi, selon les dernières rumeurs. Malheureusement. Le TFC, en même temps, ne semble pas trop jouer. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, moi je ne suis pas entraîneur, mais qui ne semble pas trop jouer avec des vrais numéros 10. On semble notamment que, puisqu'on a, je pense qu'on est un deux seuls clubs de Ligue 1 à avoir deux vrais numéros 10, en la personne de Gelabert et de Skita. Et on ne les utilise quasiment
pas. On les fait pas jouer, oui. Ouais. Skita qui est finlandais et Gelabert qui vient de le centre de formation du Real Madrid,
bien évidemment, et qui est parti de l'équipe de l'âge d'or qui a gagné la Youth League. Il est parti un an avant cette équipe qui a gagné la Youth League, qui s'est fait deux fois les croisés à chaque jour.
Il y a des choix de carrière comme ça, des fois, c'est pas les bons. c'est pas le bon moment.
Mais qui joue en première division dans un grand championnat.
Oui. Du coup, est-ce qu'on peut attendre une meilleure saison du TFC l'année prochaine ? Ou est-ce qu'on a atteint le plafond de verre ?
On peut clairement espérer une meilleure saison.
Est-ce que l'année prochaine, on voit peut-être la Conference League arriver?
Possible.
Peut-être pas sûr. Mieux que la 11e place.
Ça va flirter top 10, je pense. Oui, 8-9e place. Toujours grimper un petit peu,
oui.
Je pense.
Oui, petit à petit.
Un top 10, oui. C'est...
On peut espérer faire ce que fait peut-être Reims avec Will Steel, où il y a eu un projet cohérent qui a été porté sur la durée et qui maintenant arrive à s'intégrer dans le top 10, ou plutôt même, on va dire, dans la première partie de championnat, parce que maintenant le championnat étant en 18 équipes, il faut être au-dessus de la 9e place pour être dans le top 10, enfin, de première partie. Je pense que là, on est dans une ambition qui est proche de celle que pouvait avoir Reims, et je pense que oui, l'année prochaine, le TFC peut lutter pour les places européennes sans forcément être favori pour y accéder. Il a totalement ses chances et il peut y jouer.
Il y a aussi Brest aussi qui peut nous étonner. Peut-être que le TFC peut faire pareil. On croise les doigts, on l'espère, on l'espère pas.
C'est tout ce qu'on souhaite.
On aimerait, oui, c'est tout ce qu'on souhaite, effectivement.
Eh bien, voilà. Allez, on va rigoler, non, mais Anne-Françoise.
Mais vous savez que j'y connais rien en foot, oui. Moi, mis à part le FC Nantes des années 90.
C'est vrai. D'ailleurs, vous avez une anecdote à nous raconter, ça sera dans 15 jours, sur le FC Nantes.
Eh bien, promis.
Voilà, c'est votre devoir pour les quelques jours à venir. Le débat, on verra, évidemment, la saison n'est pas terminée. Il reste 3 matchs, il me semble, c'est ça. 3 matchs,
4,
et puis
4
matchs. Montpellier, Brest, Paris.
Non, Lorient ce week-end.
Ah, Lorient.
Lorient, Montpellier, Paris, Brest.
N'oubliez pas.
Très bonne pâtisserie.
Paris, Brest.
Très bonne pâtisserie. Ça, c'est l'heure miam miam. Très bien, ben, on verra ça évidemment en cette fin de saison. Car le temps file et tout de suite, il faut trouver les bons pronos. On apprécie cette musique et on retrouve. La semaine dernière, on avait pronostiqué TFCOM. Alors, regardez, on va faire meubler ce qui s'appelle. Qu'est-ce qu'on a parié la semaine dernière? Je ne sais plus du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
le retourné
TFC...
ne peut pas être compté. Voilà, il est hors de cette temporalité, s'il vous plaît. Jonathan.
Le TFC a fait 2-2 contre l'OM.
Il y a
donc,
quelqu'un qui avait dit 2-2.
Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a dit 2-2.
Moi, j'avais
c'est Anne-Françoise qui a dit 2-2.
Oh. Incroyable.
Anne-Françoise a dit 2-2, Erwan a dit 2-1 pour le TFC. En fait, tout le monde a eu tort. Julien a dit match nul aussi, mais 1-1. Et Anne-Françoise qui nous a dit qu'elle connaissait rien au foot.
Alors comme quoi, il y a pas
qu'elle a réussi à trouver le bon score. Voilà, magnifique. Voilà.
Quelle retournée de Mumbagna quand même.
C'est... Ah ouais, merci Mumbagna pour Anne-Françoise. Francis Mumbagna qu'on connaît évidemment.
Tout à fait.
Non mais c'est parce qu'Anne-Françoise a eu un bon pronostic.
C'est vrai.
Du coup, Anne-Françoise, samedi 15h, Stade Français Racing, vous avez 30 secondes.
Stade Français Racing. Racing Toulouse, tu veux dire?
Oui.
Vous voulez dire
Toulouse Racing. Stade
Toulousain,
pardon.
Racing.
Oui, pardon. J'ai
alors,
mis ST
Toulousain
sur la feuille.
Stade Toulousain Racing. Eh bien, le Racing va venir avec un petit peu les dents, ça c'est sûr. Moi, je dirais quand même une victoire du Stade, mais pas avec beaucoup d'écart. Peut-être un 21-15 ou un truc comme ça. C'est noté. Non, parce que je vois qu'il prend sa feuille et je me dis oh là là, si jamais il note, mon dieu.
21 combien?
21-15.
Très bien, c'est noté, Anne-Françoise, pas de soucis. Erwan.
Imagine, je fais deux semaines de suite.
Alors
ça
là, ça serait
incroyable.
Incroyable, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'émission. Erwan, 30 secondes.
Moi je pense que le Stade Toulousain va être encore agacé et c'est un peu comme à l'époque, vous savez quand vous preniez les All Blacks à l'époque où ils étaient vraiment à leur prime et qu'ils avaient perdu et que vous étiez le match suivant, bah, vous avez tendance à avoir la goutte sur le bord du front. Bah là je pense que voilà, c'est un peu pareil sans vouloir dire que le Stade Toulousain et les All Blacks, même si j'avais déjà fait la comparaison à l'émission précédente. Voilà, moi je pense que le Stade Toulousain là va se venger contre le Racing et le malheureux Racing va prendre je pense au moins, allez je vais dire 20 points d'écart.
Avec le micro, c'est mieux. Très bien. Plus 20 points pour le Stade Toulousain. Pas de soucis. Et puis, on finit par vous, Julien. 30 secondes pour terminer ce pronostic.
Bah, écoutez, moi, je suis un peu d'accord avec Anne-Françoise et Erwan. Donc, je vois aussi une victoire du Stade Toulousain, mais peut-être pas aussi dithyrambique qu'Erwan envers le Stade Toulousain. Parce qu'il faut savoir que le Racing est quand même... je crois que c'est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur et qui, justement, pourrait revenir à Ernest Vallon avec le couteau entre les dents. Donc j'imagine une victoire du Stade Toulousain, mais une victoire 30 à 25.
Vous avez 3 secondes.
Non.
Ah bah oui, moi je vous laisse, ça c'est la règle, vous avez 30 secondes
à
en plus.
D'habitude je dépasse toujours, donc
non, voilà. Ça c'est, ouais,
j'essaye d'équilibrer.
Très bien. Eh bien écoutez, c'est déjà l'heure de se quitter, quasiment presque une heure qu'on est ensemble pour parler de sport. On aurait pu aussi parler du Théo qui a ramené sa première victoire à domicile, évidemment, la flamme olympique, on l'a entendu dans le flash de Corinne Saint-Félix, qui va arriver tout doucement du côté de la Ville Rose et à Auch, mais aussi à Pau. Ça, ce sera à suivre dans une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous. Semaine prochaine, nouvel invité, nouvelle émission, peut-être nouveau chroniqueur, on verra. Donc rendez-vous la semaine prochaine, et pour pas cher, même heure, même radio.